Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour chers auditeurs, auditrices et internautes. L'heure est venue de parler Bana Okapi. Dans son communiqué du 10 octobre dernier, l'OMS a publié qu'à l'échelle mondiale, un jeune âgé de 10 à 19 ans sur 7 souffre d'un trouble mental, ce qui représente 15% de la charge mondiale de morbidité dans cette tranche d'âge. Ces troubles sont notamment la dépression, l'anxiété et les troubles de comportement, ce qui emmène au suicide souvent observé chez les 15 à 29 ans. Lorsque les troubles mentaux ne sont pas pris en charge à l'adolescence, les conséquences se font sentir jusqu'à l'âge adulte, ce qui nuit à la santé physique et mentale et limite la possibilité de mener une vie épanouissante. Alors, quelle stratégie adopter pour améliorer la santé mentale des jeunes Congolais? Éléments de réponse dans ce magazine Bana Okapi, financé par l'UNICEF. Je suis Sarah Soumbel à la présentation dans une mise en onde de Deps Vita. Gisèle Cage réalise ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matouakimou Felele, Dijana. Puisque le menu est déjà connu, ouvrons le bal de ce magazine. Commençons ce magazine à Beni au Nord Kivu. Les nombres de personnes souffrant des troubles mentaux augmentent depuis plusieurs années en raison de multiples facteurs tels que le chômage, la violence, le conflit récurrent et la pauvreté. Pour faire face à ce défi, des structures neuropsychiatriques se mobilisent. Comment s'organisent-elles pour accompagner les patients? Quels sont les défis à relever? Un dossier de André Kitenge.
Le centre hospitalier neuropsychiatrique Sainte-Croix de Beni est l'une des principales structures de soins pour les personnes atteintes de maladies mentales dans la région. Avec une équipe composée de médecins, psychiatres, psychologues cliniciens et d'assistants sociaux, ce centre offre une prise en charge globale. Le docteur James Musubao, médecin directeur, détaille les étapes d'accompagnement des patients.
Ici au centre hospitalier neuropsychiatrique Sainte-Croix de Beni, la prise en charge des malades mentaux, en tout cas, elle n'est pas statique. Chaque cas est spécifique et c'est comme ça que globalement tous les malades d'abord ils sont reçus à la réception par un psychologue clinicien et là ils complètent déjà les dossiers et quand les dossiers déjà sont complets ils passent déjà à la consultation psychiatrique et quand ils veulent quitter la consultation psychiatrique ils peuvent passer aussi chez les psychologues cliniciens pour un entretien. Et comme le malade qui nous vient, ils ne sont pas seulement malades mentaux, mais aussi il arrive qu'ils puissent présenter des problèmes organiques, autre maladie que la maladie mentale. Et c'est comme ça qu'on a un laboratoire médical qui fonctionne et je suis obligé de demander quelques autres examens paracliniques afin que je puisse arriver à déceler autre maladie organique à part la maladie mentale. Et c'est de là que va ressortir maintenant le diagnostic psychiatrique et le diagnostic aussi médical, pour que nous puissions arriver maintenant à prescrire les médicaments qui conviennent pour la pathologie. Les malades que nous recevons, surtout ici en service de psychiatrie, ce sont les malades qui présentent la manie, les malades qui présentent la dépression et les malades qui présentent le trouble bipolaire. Mais à part ça, nous avons maintenant les épileptiques aussi que nous recevons ici.
En complément des soins médicaux, la prise en charge intègre également un accompagnement psychiatrique et psychologique. Héritier Muhongia, psychologue clinicien au centre, décrit le processus suivi pour aider les malades à retrouver un équilibre.
T'as donné que c'est notre spécificité, l'aspect mental. Et c'est là que nous prenons beaucoup de temps, nous nous focalisons à cet aspect, tout en ne rejetant pas l'aspect social, en ne rejetant pas l'aspect médical, l'aspect corporel, disons. Nous recevons tous les types de malades mentaux. Il y a plusieurs catégories, mais lesquelles catégories je peux classifier à deux, voire même à trois. Il y a des malades qui peuvent être malades, ne sachant pas qu'ils sont malades. il peut ne pas connaître que le comportement qu'il est en train de présenter est hors la normale. Et c'est une catégorie qu'on appelle les psychotiques. Ils ont une maladie qu'on appelle la psychose. C'est là que nous soignons ici à grande partie. Mais à ne pas rejeter une deuxième catégorie, les malades qui se connaissent. Ils peuvent eux-mêmes décrire leur état. Quelqu'un qui va vous dire « j'ai fait des oublis ». Là, nous n'allons pas les qualifier directement de quelqu'un qui a des troubles du comportement comme les premiers. Il peut dire que non, j'ai fait des insomnies. Et une telle catégorie, ce sont des malades que nous qualifions de névrotiques. Ils ont une maladie qu'on appelle la névrose, anciennement, telle qu'on les appelait. Mais actuellement, nous disons qu'ils ont ce qu'on appelle les troubles anxieux. Ce sont là les grandes catégories que nous soignons, tout en ne pas négliger ceux qui ont ce que nous appelons des troubles neurologiques, qui peuvent faire des crises de syncope. Il suffit qu'il soit dans un milieu où il y a plusieurs personnes, il fait une crise et il perd la connaissance.
En dépit de sa bonne volonté, le centre hospitalier Sainte-Croix fait face à des obstacles majeurs, notamment le non-paiement des factures par les patients guéris et l'abandon des malades par leurs familles, ce qui complique leur réinsertion sociale.
Côté dans notre prestation, nous avons les malades une fois stabilisés, comme vous pouvez dire guéris comme ailleurs, ils sont facturés et la famille n'arrive pas à honorer la facture. Ça crée encore quelque chose de récidive chez les malades qui trouvent qu'il est déjà stabilisé et maintenant il est délaissé par la famille et par manque de moyens financiers. Autre difficulté, nous avons des malades qui sont amenés par la famille. D'un moment à l'autre, les membres de la famille disparaissent un à un et ils se retrouvent déjà délaissés et ça arrive à biaiser maintenant son évolution. Autre difficulté, c'est pour la restauration de nos malades qui nous viennent de trop loin et qui seraient hospitalisés. Là, en tout cas, nous avons de la peine parce que quand on doit tout le temps attendre quelqu'un qui va venir de trop loin pour amener les repas aux malades qui sont hospitalisés. Or, nos malades habituellement mangent beaucoup. Une fois déjà avoir d'amélioration, ils commencent à manger trop. Autre difficulté, c'est le moyen de transport des malades déjà agressifs à partir de la maison parce que tous les membres de la famille, ils ont peur de ces malades-là. Et nous avons de la peine pour le faire parvenir à l'hôpital.
Lors d'une visite sur place, un patient psychotique en voie de rétablissement a lancé un appel aux jeunes de Beni pour qu'ils abandonnent la drogue, soulignant son impact dévastateur sur la santé mentale.
Je suis intégré ici pas comme un malade de la tête suite à la drogue, ce qui m'a poussé d'y arriver ici au Fomeka. Ouais, je suis bien, je suis déjà guéri. J'étais seulement le facteur, comment faire le facteur puis les quitter ici. Moi, je peux m'arrêter célibataire.
Pourquoi?
On a rompu avec mon femme.
Pourquoi?
C'est les étapes de la vie. Les étapes de la vie, c'est qu'il nous a partagé. Ce qui fait sa vie. Ma sortie après ici, j'ai connu faire l'entrepreneuriat. Parce que j'aime faire mon business personnel. Moi, c'est de gérer mon business. Et moi, dire ce que je peux dire seulement, c'est pour dire à toute la jeunesse de Beni, de s'enchatouiller, qui laisse les drogues. Parce que maintenant, le drogue est déjà comme une intrigue qui est maudite. Parce qu'on fait ici des prières maintes fois par partie des drogues. Donc, il y a un jeune qui va mêler sa vie avec les drogues, il va les regretter, il va payer les pots cassés.
Nonobstant les difficultés auxquelles fait face le centre, certains membres des familles se disent satisfaits des soins administrés. Laït Omari, gardé malade, témoigne de l'amélioration constatée chez un proche après son séjour à Sainte-Croix.
Je trouve que les centres médicaux d'ici traitent au moins bien. Bien, oui. Parce que je trouve le changement par rapport à ce que mon frère souffrait auparavant. Mais actuellement, ça va quand même. C'était juste le problème de mental. Hein? Mais actuellement, il évolue, il est bien. J'ai l'espoir que ça va aller. Et il sera bien par rapport à auparavant. Parce que je trouve aussi des changements. Ce que j'ai constaté, les médecins, les psychologues sont adaptés, expérimentés en fait, dans leur domaine.
Pour assurer la pérennité de ses activités, le médecin directeur du centre appelle le gouvernement congolais à fournir un appui substantiel.
Pour le bon fonctionnement de notre structure, nous demandons vraiment aux autorités du pays de voir comment surtout nous procurer la paix parce que avec l'insécurité, nous sommes vraiment envahis par nombreux malades qui présentent des stress post-traumatiques liés à cette guerre. Et si vraiment la paix peut finir par revenir au pays, et surtout dans notre province. En tout cas, cela peut nous permettre à ce qu'on arrive à gérer les cas bénins à domicile sans qu'ils ne soient hospitalisés.
Les pathologies traitées au centre vont de la psychose chronique et aiguë à l'épilepsie, en passant par la schizophrénie, la toxicomanie, la dépression et les céphalées chroniques. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Je reçois dans ce studio deux jeunes femmes, membres du Parlement de jeunes de la RDC à Kinshasa. Avec elles, nous discutons des causes de certains troubles mentaux chez les jeunes congolais, en particulier de comportements qui y contribuent. Je suis donc avec Lizzie Maderisha, étudiante en médecine à l'Université de Kinshasa, et Mademoiselle Chanela Ndelela, étudiante en management à l'INA. Bonjour mesdames.
Bonjour Madame Sarah.
Bonjour.
Vous avez entendu parler des troubles mentaux, les jeunes ont témoigné, on a tous suivi. Avez-vous remarqué de votre côté qu'il y a de plus en plus de jeunes sont victimes des troubles mentaux?
Oui, nous avons remarqué surtout actuellement avec le problème du, avec le réseau, l'internet qui vient d'apparaître. On parle encore de la technologie nouvelle. Vous voyez même, il y a des jeunes, par exemple, des jeunes filles qui ne peuvent plus se détacher des TikTok, qui ne peuvent plus se détacher d'Internet. Et puis, nous voyons aussi l'apparition de certaines drogues. Par exemple, chez nous, ici, nous avons vu l'apparition des bombés qui a fait beaucoup de bruit. Il y a eu, par exemple, les jeunes qui se sont drogués, qui n'arrivent même plus à marcher. La fois passée, j'étais au rond-point Gab, j'ai vu un jeune qui n'arrivait même plus à marcher. Nous voyons aussi l'apparition des phénomènes Kuluna qui n'était pas auparavant mais qui a fait beaucoup de bruit actuellement et qui fait encore beaucoup de bruit actuellement.
Vous pensez que les phénomènes Kuluna, les réseaux internet sont l'une des causes des troubles mentaux?
Oui, parce que ça traduit aussi une sorte de dépendance. Parce que vous, si vous voyez par exemple les réseaux sociaux, c'est une dépendance. Lorsque la personne n'arrive même plus à manger, il n'arrive même plus à dormir, il doit dormir par exemple à 3h du matin parce qu'il est en train de regarder par exemple les TikTok, ou bien parce qu'il regarde des séries, ou bien parce qu'il est sur Facebook ou sur WhatsApp. Ça, c'est déjà un trouble mental. Pourquoi? Parce que la personne n'arrive plus à faire ce qu'il fait habituellement, tout simplement parce qu'il doit regarder, il doit être sur les réseaux sociaux. Nous voyons même, il y a des gens qui n'arrivent même plus à se laver. Donc, quand déjà une personne n'arrive plus à se laver parce qu'il doit être sur son téléphone, c'est déjà un problème. Nous voyons aussi les jeunes aussi qui ont des relations toxiques. Par exemple, les Kuluna. Leur relation, c'est une relation toxique. Pourquoi? Parce que les actes qui sont en train de produire, ce sont des actes qui sont non productifs. Ce sont des actes qui vont faire en sorte que les autres ne puissent pas s'épanouir et que eux-mêmes aussi ne puissent pas s'épanouir. Donc, ce sont des actes qui sont d'abord contre eux-mêmes et qui sont aussi contre la population. Donc, une personne déjà qui s'est fait du mal à lui-même et qui fait du mal aux autres n'est pas normale.
Alors, Madame Chanela, y a-t-il un comportement chez les jeunes qui cause ce trouble?
J'ai vu emboîter les pas de ma collègue pour parler de la violence, en fait. Parce que des personnes qui souffrent des troubles ont cette caractéristique d'être violents. Et puis la violence, c'est pas seulement une violence physique, mais c'est aussi la violence verbale. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit à quel point on peut blesser quelqu'un, à quel point on peut même pousser une personne au suicide, juste par un mot, un texte, une vidéo. Des choses qui sont devenues, je dirais, un peu incontrôlables parce que des personnes sont ancrées dans cette dépendance, des choses qui sont en fait des vices. La violence, en fait, aujourd'hui, si je vais parler aussi de jeunes qui sont dans la délinquance, c'est quelque chose qui est devenu notre quotidien. Parce que à l'époque, certes, ce phénomène a toujours existé, mais ça prend des allures un peu beaucoup trop inquiétantes, à mon avis en tout cas.
Alors, est-ce que la pauvreté peut être l'une des causes de certains troubles de comportement chez les jeunes?
D'ailleurs, la pauvreté, je peux dire, ça peut être classé en haut de la liste parce que les troubles mentaux commencent d'abord avec le mode de vie de la personne qui subit ces troubles mentaux-là. Par exemple, avec la pauvreté, d'abord, ici chez nous, en RDC, c'est fréquent. Et cette pauvreté fait en sorte que le jeune puisse manquer de l'emploi, par exemple. Il y a un taux très élevé de chômage chez les jeunes. Et ces jeunes commencent un peu à se détourner vers d'autres pratiques. Par exemple, le Kuluna dont on a parlé actuellement. C'est parce qu'il n'y a pas quelque chose qui les préoccupe de la journée. Parce que même leur combat, souvent leurs agressivités, n'ont rien à voir avec quelque chose de normal. Vous allez voir les gens qui se battent, par exemple, pour soi-disant des territoires ou quelque chose de comme ça. Ce sont des comportements typiques aux animaux. Ce ne sont pas des comportements normaux. Vous allez vous battre pour un territoire qui ne vous appartient même pas. Donc vous allez voir souvent les jeunes Kuluna qui se battent pour des territoires. Alors la pauvreté souvent plonge les gens vers d'autres pratiques. Nous avons aussi, par exemple, aussi d'autres problèmes chez ces jeunes-là. Ce sont des jeunes qui ne sont pas occupés. Et aussi, nous n'avons pas vraiment des structures qualifiées, que l'État ne met pas en disposition des structures vraiment qualifiées pour prendre en charge ces gens de manière... avec une prise en charge. Nous n'avons pas de prise en charge de qualité. Nous avons donc l'accès limité aux prises en charge de qualité. C'est un peu ça.
Pourquoi les jeunes s'adonnent à des consommations de fortes boissons et aussi des drogues?
C'est tout simplement pour cela. Ce que j'étais en train de dire, c'est pour ça en fait. Quand vous voyez un jeune qui n'a pas de travail, un jeune par exemple qui passe toute sa journée à la maison, il n'a rien à faire.
Mais il n'y a pas que les jeunes qui n'ont pas de travail qui le font. Aujourd'hui, on voit même les élèves qui vont à l'école, mais oui, qui se livrent quand même à la consommation de whisky, de la drogue et autres. Cette attirance-là vers ces substances nocives, c'est dû à quoi?
Il y a plusieurs facteurs. Mm-hmm. Ces jeunes qui prennent de l'alcool, par exemple, comme vous avez dit à l'école, est-ce que nous savons ce qu'ils subissent à l'école? Nous ne le savons pas. Parce qu'il y a des jeunes aussi qui subissent, par exemple, des violences scolaires. Il y a des violences scolaires. C'est vrai qu'on n'en parle pas, on néglige ça un peu, mais il y a des jeunes qui subissent des violences scolaires. Il y a aussi des violences au niveau de la maison. Par exemple, des violences au niveau de la maison, au niveau de leur propre foyer. Ils subissent des violences. Et quand ils subissent ce genre de violences, la seule chose qui peuvent les aider en fait à pouvoir reprendre conscience, à être un peu plus à l'aise, c'est de pouvoir prendre de l'alcool, prendre de la drogue. C'est un peu ça. Donc vous allez trouver qu'il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas que le chômage. Le chômage, c'est juste un facteur qu'on peut plus retrouver chez les jeunes, mais même chez les enfants. Vous allez voir chez les enfants, chez d'autres enfants, ils subissent des violences. Même leurs collègues, leurs maîtresses peuvent être aussi violents envers eux. Et ce sont des enfants qui veulent un peu s'éloigner de cela. Et ils trouvent une manière pour eux de pouvoir se faire plaisir. Parce que la drogue, souvent, ça plonge quelqu'un dans un monde qui est, je peux dire, un monde merveilleux, où il n'y a pas de soucis, où il n'y a pas de problèmes. Mais le problème de l'alcool ou bien le problème de la drogue, c'est qu'une fois que tu as pris cela, ça devient une dépendance. Tu ne vas plus vivre sans cela. Tu ne peux plus vivre sans ce plaisir-là. Donc ça te donne une sorte de plaisir. Et vous pouvez voir ça, c'est souvent, ce qui arrive souvent, c'est sont dans des familles qui sont violentes, chez les jeunes qui ne savent pas où aller, c'est un peu ça.
Alors, Madame Chanela, est-ce que c'est les comportements de certains adultes qui poussent les jeunes aussi à la consommation de drogue, selon vous?
Ça peut être l'un des facteurs, parce qu'une étude a récemment démontré que des personnes qui sont livrées à la violence, pour la plupart des cas, ont été des enfants en rupture familiale. Et ça, c'est vraiment un fléau que notre société fait face, cette phénomène de rupture familiale. Il y a des enfants qui ont grandi sans père, sans mère, et un enfant qui a grandi dans un environnement où il n'y a pas eu d'amour, on ne l'a pas donné assez d'attention. Et puis dans les écoles aussi, on n'a pas assez de personnes d'éducation assez formées pour ce genre de situation. Parce qu'un enfant qui vient déjà de la maison, il a des problèmes chez lui à la maison, il n'a pas de père, on lui rappelle ça constamment. L'enfant n'est pas bien nourri, l'enfant est maltraité. Et quand cet enfant vient à l'école, quand l'enfant n'a pas de bons résultats, ça retombe encore sur lui, à l'école, à la maison, sur lui encore. Et forcément, cet enfant deviendra un adolescent ou un adulte perdu. Et le seul endroit, le seul refuge où il aura, où on va l'accueillir à bras ouverts, c'est dans la rue, c'est dans la délinquance et dans la dépendance. Les adultes doivent comprendre qu'un adulte violent n'était pas d'abord né adulte, c'était d'abord un enfant maltraité, un enfant traumatisé. En plus, et au fur et à mesure que ce traumatisme a grandi, ça a pris de la place dans son cœur, dans son âme, dans ses sentiments. Quand il grandit, il exprime ça par le seul moyen qu'il trouve légal, c'est la violence. Parce que même si on parle des Koulouna aujourd'hui, ce ne sont pas de fous, genre, ils commettent des actes qu'ils ne savent pas. Certes, ils savent des actes qu'ils commettent, parce que quand vous leur posez la question, ils vont vous donner des raisons qui leur poussent à commettre ces actes-là. Parce que même si ces raisons ne justifient pas leurs actes, mais on comprendra que chaque acte a toujours été poussé par quelque chose. Quelqu'un ne se réveille pas un bon matin et puis prend de la machine, commence à couper des gens. Il y a toujours quelque chose qui a été fait en lui pour qu'il puisse avoir cette réaction-là.
Alors, que recommandez-vous aux jeunes en ce qui concerne la promotion du bien-être mental, Madame Chanela?
Alors, je vais répondre à cette question par mon exemple. Lorsque j'ai eu mes 19 ans, j'ai passé par des moments très difficiles, des moments des familles qui étaient vraiment très difficiles. Alors je me suis retournée vers des personnes qui pouvaient me parler, qui pouvaient me montrer le revers de la médaille, me parler des bonnes choses, me donner des bonnes soins. Parce que déjà, je vivais dans un milieu où la violence était vraiment quelque chose de continu, d'habituel. Les gens étaient dans la violence, les femmes, les enfants. C'était vraiment horrible à vivre cela. Et j'ai eu la chance, moi, d'avoir des gens qui m'ont soutenue, qui m'ont parlé et qui m'ont aidé à me relever. Et l'activité que j'ai faite pour me sortir de là, j'ai fait du bénévolat. C'est là que je me suis lancée dans le bénévolat et jusqu'à continuer à faire de l'activisme. En fait, on ne comprend pas toujours l'importance qu'il y a de parler à quelqu'un. Les gens ne comprennent pas toujours parce qu'on a mis dans nos têtes que quand tu parles à une personne, c'est comme si tu étais faible devant cette personne. Il faudrait déjà, le mieux que nous puissions faire, que nous faisons déjà, c'est d'en parler et de dénoncer. Et il faudrait déjà que nous puissions faire de ça quelque chose de très normal, de dire à une personne quand tu passes par des moments difficiles, il faut en parler. Parce que quand tu en parles, tu donnes l'occasion à d'autres personnes de t'aider, de t'orienter, de te dire qu'est-ce que tu dois faire. Et puis tu n'en parles pas aussi à n'importe qui, tu en parles à des personnes où tu as confiance, ils ont une bonne moralité et une bonne influence sur toi aussi. Comme Didier l'a dit, il faudrait qu'il y ait des centres de partage. C'est vraiment très important. L'État, en fait, est ignorant de toute le charge que les jeunes peuvent traverser dans une journée, par exemple. On est dans un pays où tu es diplômé, quand tu finis ton diplôme directement dans ta tête, tu sais que tu vas être chômeur parce que il y aura pas des entreprises qui vont t'engager, il n'y a pas d'emploi. Les gens qui ont fini avant toi étaient des chômeurs, dans ta famille, il y a toujours des chômeurs. Et puis, tu te retournes à l'entrepreneuriat, tu n'as pas de soutien. Tu n'as rien, tu pars à la fac, tu es harcelé par les professeurs, les étudiants, il n'y a pas de transport. Et tout ça, ça fait un cumul de problèmes qui fait que lorsque une personne n'est pas mentalement assez forte, il peut facilement sombrer dans une dépression et être dans un gouffre qui sera plus difficile à lui sortir. Donc, il faudrait qu'il y ait des activités de relaxation comme le sport, la musique, comme elle en a parlé, l'art, des activités qui permettent aux gens de s'exprimer, d'exprimer leurs émotions et d'exprimer leurs sentiments. Je pense que ça serait déjà un beau début pour nous de comprendre d'où viennent nos mots et comment les traiter.
Alors, Madame Lydie, on va terminer avec vous. Oui. Avez-vous un message à lancer particulièrement aux parents en ce qui concerne le bien-être mental des enfants?
Bien sûr, pour moi, le message que je peux lancer aux parents, c'est que d'abord, la santé mentale commence avant même la conception. Je ne peux pas dire dès la conception, mais avant la conception. Vous allez voir même, il y a certains docteurs qui disent à la mère, ne sois pas stressée quand tu es enceinte. Il faut bien te nourrir. Il faut être joyeuse. C'est parce qu'ils savent un peu l'importance de la santé. Ils savent un peu l'importance de la santé mentale de la mère. Parce que la santé mentale de la mère peut directement affecter aussi l'enfant. Donc, il faut comprendre que vous, le parent, vous avez la santé même mentale de vos enfants en main. Un parent qui est, par exemple, qui réprimande trop son enfant aura tendance, par exemple, à se réserver peut-être pour parler devant les gens. Parce qu'ils savent que tout ce que j'ai dit n'est pas bon. Tout ce que j'ai dit, peut-être, ne va pas plaire aux gens. Un parent, par exemple, qui a tendance à trop gâter son enfant aussi. Cet enfant aura tendance à quoi? À vouloir tout avoir. Moi, je dois avoir ceci, je dois avoir cela, je dois... Donc, les parents doivent être l'exemple pour les enfants. Donc, les parents sont la clé même. Même, vous allez voir, la plupart des jeunes qui vont présenter des troubles mentaux, ce sont des jeunes qui proviennent, par exemple, des familles divorcées ou bien des familles où il y a beaucoup de violence. Donc, moi, je trouve que les parents jouent un rôle très important. Donc, ce que moi, je peux conseiller aux parents, c'est qu'ils ont vraiment la clé pour la santé mentale de leurs enfants. Et ils doivent vraiment savoir que c'est une clé qui est très importante parce que quelqu'un qui n'est pas mentalement sain, c'est quelqu'un qui est perturbé, c'est quelqu'un qui ne peut pas déjà participer à son épanouissement propre, même à l'épanouissement des autres.
Merci à vous, Lydie Maderisha. Je rappelle que vous êtes étudiante en médecine à l'Université de Kinshasa. Et merci également à Chanila Ndelela, étudiante en management à l'INA.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
L'adolescence est une période cruciale de développement.
les changements physiques, émotionnels et sociaux, ainsi que de facteurs comme la pauvreté, la maltraitance et la violence peuvent rendre les adolescents particulièrement vulnérables aux troubles mentaux. Pour que les adolescents soient en bonne santé et se sentent bien pendant cette étape de leur vie, puis à l'âge adulte, il faut absolument mettre en avant l'apprentissage socio-affectif et le bien-être psychologique et leur garantir un accès aux soins de santé mentale. Dans cette deuxième partie du magazine Bana Okapi, nos invités spécialistes en la matière, un médecin généraliste et un psychologue clinicien, vont nous parler des stratégies à adopter pour améliorer la santé mentale des jeunes. Je vous prie de rester à l'écoute sur la même fréquence. À la présentation de ce magazine, je suis Sarah Soumbela, une mise en onde de Depsovita, une réalisation de Gisèle Cage sous la supervision de Jean-Marc Matouakimo Felili Dijano. Nous lançons cette seconde partie en...
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Troubles mentaux chez les jeunes Congolais, quelle stratégie adopter pour améliorer leur santé mentale? Place maintenant à nos invités. Nous recevons le docteur Placide Kayombo, le coordonnateur de l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable. Avec lui, nous parlons des causes et premiers symptômes du trouble mentaux chez le jeune Congolais.
Docteur Placide Kayombo, médecin et coordonnateur de l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable. Bonjour docteur.
Bonjour cher Jeff, bonjour à tous nos auditeurs de la Radio Capi.
Oui docteur, qu'appelle-t-on trouble mental?
Le trouble mental. En tout cas, merci pour ce sujet très important, très édifiant pour notre communauté. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS définit le trouble mental comme une composante essentielle de la santé. On peut dire que ça définit par des changements qui affectent la pensée, l'humeur ou le comportement d'une personne. Et cela perturbe également son fonctionnement et lui entraîne une détresse. Donc, c'est cet état-là de santé qui s'est défini par des changements qui affectent la pensée, l'humeur, les comportements. Et voilà au moins la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne les troubles mentaux.
Alors, comment se caractérise-t-il, docteur?
Concernant les signes ou les symptômes des troubles mentaux qui peuvent être plus ou moins intenses, vous allez voir que quand la personne a des troubles d'humeur et troubles mentaux, il y a deux personnes qui constatent cela. Commençant par la famille ou l'entourage, ils peuvent constater quelques signes, comme étant, par exemple, tendance à l'isolement. Vous allez voir quelqu'un qui est en train de s'isoler des groupes, une augmentation, par exemple, de la consommation abusive des drogues ou d'alcool. Vous allez voir un monsieur ou une dame qui se dit de manière inhabituelle, il commence seulement à consommer, des substances psychoactives. Ça peut être également un signe. Par exemple, quelqu'un qui est sous traitement, il est en train de prendre un traitement quelconque, d'emblée il arrête ses traitements, c'est un signe de trouble mental. Il y a aussi d'autres signes qui se laissent voir, c'est la désorganisation. Vous allez voir une personne très organisée, à un moment donné, il a du mal à marquer, à s'organiser ou à fonctionner de la manière habituelle. Il y a plusieurs signes qui sont constatés. Là, c'est constaté par l'entourage ou la famille. Peut-être aussi la façon de s'exprimer. Vous allez voir quelqu'un qui commence à tenir des propos étranges, inhabituels, qui n'ont pas de sens. Il y a des pertes de mémoire qu'on peut constater. Et aussi, surtout, une difficulté à maintenir des obligations familiales ou professionnel. Vous allez voir Cher Jeff, qui est connu comme amoureux du micro, et du coup on constate que Monsieur Jeff n'aime plus le micro. On peut se dire que ça peut, cela aussi peut être un signe des troubles mentaux. Mais à côté de ça, il y a aussi des signes que la personne elle-même peut constater, peut ressentir, comme étant manque d'appétit, comme des fatigues ou épuisement. Il y a l'insomnie, ou carrément l'hypersomnie aussi. il y a des étourdissements, une tristesse. Voilà, quelqu'un de soi-même se sent vraiment triste. Il commence à se demander, qu'est-ce que j'ai comme problème? Mais je me sens triste. Ou alors, on a un de l'euphorie, donc cet état d'excitation très grave là. Donc, voilà un peu quelques signes qui sont constatés quand on a un trouble mental.
Mais docteur, malheureusement, aujourd'hui, on constate dans les chefs de plusieurs jeunes ces signes des troubles mentaux. Quelles en sont les raisons?
Ça, c'est évident que c'est vraiment lié d'abord chez les jeunes qu'on constate beaucoup de ces signes. Mmh. Peut-être quelque chose, avant d'abord d'être d'abord avocat de ces jeunes, nous disons que ces jeunes ont passé peut-être par une adolescence. Parce que c'est au niveau d'abord de l'adolescence qui est la période unique de formation. Donc il y a d'abord au niveau de l'adolescence les changements physiques, émotionnels et sociaux, ainsi aussi maintenant dans notre milieu il y a la pauvreté d'une part, il y a la maltraitance et la violence, et tous ces gens, tous ces choses rendent les jeunes vulnérable aux troubles mentaux. Mmh. Maintenant, le mal encore, c'est quoi? Le jeune, qui sont déjà vulnérables, se donne encore à la consommation de substances psychoactives, mmh, qui vont maintenant entretenir ces cycles.
C'est ça.
C'est lui qui se ressent vulnérable. Comme pouvoir, il va commencer à consommer de l'alcool et cannabis et autres. Maintenant, nos jeunes en font un mode de vie. Maintenant, quand on consomme ces histoires, on devient plus colérique, on ne respecte plus les aînés, et bon voilà, c'est comme ça que les jeunes sont plus victimes, ou carrément, on constate plus ces troubles mentaux auprès de nos jeunes.
Docteur, est-ce que l'arrêt des consommations de fortes boissons alcoolisées ou des substances fortes peut mettre fin aux troubles mentaux chez le jeune?
Bon, la consommation, je ne vais pas dire oui ou non, mais plutôt je vais expliquer. Mmh. La consommation de ces substances n'est qu'une réponse que les jeunes ont donnée à certaines formes de troubles qu'ils ont déjà. C'est-à-dire quoi? Un jeune qui vit dans la pauvreté, mmh, il se dit, je manque quoi manger, je préfère boire pour oublier. Mmh. Ou un jeune qui vit dans la violence, qui est victime de violence, qui a développé ses caractères, ses nouveaux caractères de consommation de substances psychoactives, mais que malheureusement ces substances lui entraînent maintenant à développer encore cette excitation psychomoteur pour commencer même à insulter les gens, se bagarrer et autres. Donc c'est pour dire que l'arrêt de ces substances ne va pas résoudre le problème, mais néanmoins ça va contribuer à identifier maintenant les vrais problèmes, parce que ça cache maintenant pourquoi cette personne consomme. Est-ce qu'elle est victime de quelque chose en amont, ou c'est tout simplement un trouble qu'il faudra traiter? Mais c'est important au moins par commencer par l'arrêt. Comme ça, on saura identifier les vrais problèmes qu'on pourra maintenant guérir.
Alors, docteur, que faire si vous remarquez que votre enfant présente des symptômes de troubles mentaux?
Ah, ok. Ça, c'est très important comme question. Mais je voudrais quand même demander votre diligence. Je serai un peu long sur cette question parce que vous avez spécifié chez l'enfant.
Vas-y,
alors,
docteur.
Alors, chez l'enfant, les parents qui nous suivent, les fidèles auditeurs de la radio Capi qui nous suivent, doivent quand même aussi avoir vraiment quelque chose derrière cette question pour aider les enfants. Donc, ici, un parent peut détecter, je me permets d'abord de contextualiser les symptômes que le parent peut constater chez les enfants. En parlant des enfants, c'est vraiment les enfants à la maison et non les enfants dont on a parlé tout à l'heure, les jeunes. Donc, un parent peut détecter, peut constater le changement d'humeur ou de comportement qui pourrait être peut-être les signes de l'émergence déjà d'un trouble mental chez son enfant. Mais en qualité de parent, bon, d'abord, quels sont ces signes que le parent peut constater? Il y a par exemple la difficulté à dormir. Nous avons parlé de l'insomnie, mais le parent peut constater que mon enfant n'arrive pas à dormir. Ou alors, il y a même le contraire, que l'enfant dort tout le temps. Cet enfant ne mange pas correctement, ne mange plus. Quand on lui donne, il dit toujours « je n'ai pas d'appétit ».
ou même le contraire. L'enfant mange sans vraiment aucun contrôle. L'enfant peut avoir peu d'énergie, il est tout le temps faible, ou alors le contraire, l'enfant est très agité. Ou on parle même de l'énergie débordante soudaine. Du coup, on constate que cet enfant quand même très excité, très agité. On peut voir même que l'enfant a un problème de concentration. Tout ce qu'on fait à l'enfant, donne à un enfant les devoirs à la maison, par la maîtresse et autres, l'enfant n'arrive pas à se concentrer. L'enfant se plaint peut-être des nausées, des maux de ventre. L'enfant change d'humeur à tout moment. Ou vous faites des colères excessives. Quand il est avec ses frères en train de parler, vous sentez seulement que là-bas, soit il commence à crier sur les autres, soit il commence même à partir même avec les actes, des choses comme ça. Mmh. Maintenant, si le parent constate au moins quelques signes de chez l'enfant, la liste n'est pas exhaustive, le parent, au moins on sait que la présence de l'un de ces signes ici, les parents ne doivent pas d'abord s'inquiéter, première des choses. Les parents doivent d'abord continuer à observer, parce que un signe qui va se venir ici, cela ne montre pas seulement qu'il y a déjà l'installation des troubles mentaux. Je donne l'exemple de l'insomnie. Mmh. Est-ce que cet enfant avait passé une bonne journée ou il dort dans des bonnes conditions pour qu'on dise que l'insomnie est liée au trouble mental? Donc, ce que nous demandons aux parents qui nous suivent, ils doivent rester attentifs, écouter l'enfant. Vous voyez peut-être l'enfant qui est colérique, vous l'approchez comme parent, vous dites, je suis votre parent, je suis prêt à vous aider. Mais il y a quelques pratiques que nous demandons aux parents pour diminuer les risques d'apparition ou d'aggravation des symptômes de troubles mentaux. On demande par exemple aux parents d'assurer les enfants. Vous dites à l'enfant, rassurez-vous que assurez que l'enfant est dans un environnement stable, cohérent. Ça, je donne l'exemple. Un enfant qui vit des violences, le parent toujours, les deux sont violents. Et puis vous voyez cet enfant développer aussi la colère. Maintenant, vous allez dire quoi? L'enfant là est colérique parce qu'il a un trouble mental ou c'est parce qu'il a un mauvais environnement? Mmh. Donc il faut que le parent assure un environnement stable, cohérent et rassurant à l'enfant. Nous demandons aux parents d'adopter des pratiques éducatives positives appropriées à l'âge de l'enfant. Parce qu'il y a d'autres enfants qui sont énervants, qui sont colériques parce que le parent leur donne toujours les exercices qui ne correspondent pas à leur âge. On demande aussi aux parents d'adopter un bon mode de communication qui est positif, chaleureux. Ce n'est pas un parent, un papa caporal, un papa général qui, quand il est à la maison, bon voilà, c'est vraiment des communications un peu très compliquées là. Par moments, c'est ces comportements-là que l'enfant puisse maintenant développer des signes, soi-disant trouble mental, et pourtant c'est lié à son environnement. Il faut aussi il faut que le parent arrive à aider l'enfant à développer des habiletés sociales, des capacités à résoudre des problèmes, à gérer le stress et à contrôler ses actions émotionnelles, ses réactions émotionnelles et comportementales. Donc là, c'est ce qu'on demande aux parents d'aider, d'assurer les enfants. Surtout la question de l'environnement. Vous allez voir, il y a un enfant qui est très courtois à l'école, avec ses amis. Mmh. Mais quand on l'oublie de rentrer à la maison, l'enfant devient colérique, l'enfant devient triste. Ouais. Ou même le contraire, où les enfants à la maison sont bien, mais quand on leur dit d'aller à l'école. Ça pose problème. Mais si, maintenant, chers journalistes, si maintenant on constate que ces changements d'humeur, ces comportements ici, comme nous avons dit, de l'enfant persistent, hein, là, il faut consulter. Il faut consulter si ces signes sont soit fréquents. Vous voyez, par exemple, vous avez mis un enfant dans un environnement sain, vous avez ordonné son horaire et l'enfant doit dormir à telle heure, jusqu'à telle heure, tout ça, ça ne marche pas. Là, on constate, là, il faut consulter. Il faut qu'on consulte le professionnel de santé.
Donc il faut qu'on consulte le professionnel de santé et il me revient à l'esprit de poser la question au docteur, savoir si on peut soigner des troubles mentaux sans pouvoir, sans une thérapie ou sans consulter un psychiatre, juste au niveau de la maison.
Je sais que quand vous parlez de thérapie, je m'imagine que M. Dieff pense aux médicaments.
Voilà.
Mais néanmoins, le traitement, il n'est pas seulement médicamenté. Okay. Donc, dire sans thérapie, je dirais non. Mais néanmoins, on peut traiter sans donner de médicaments. Mm-hmm. Parce que tout ce que nous avons parlé tout à l'heure, des conseils qui seront donnés, l'environnement qui sera donné, les psychologues, l'appui des psychologues, des psychiatres et tout ça, il y a des traitements qui vont se donner sans médicaments. Mais sinon, c'est les professionnels de soins qui pourra même voir où est-ce que je peux orienter mon malade pour les soins appropriés.
Okay.
Parce que, voyez par exemple les composantes que nous avons dit tout à l'heure, quand le médecin va consulter cet enfant, il pourra voir en sorte que il va collecter les informations des signes à différents niveaux. Même si cet enfant parle bien avec la monitrice et l'école du dimanche, le médecin pourra même voir dans ses sphères pour dire que pourquoi cet enfant peut mieux parler à la monitrice qu'à sa propre mère. Pourquoi cet enfant parlerait bien avec la maîtresse. C'est pour dire que la thérapie est là, sans médicaments, mais elle est importante. Surtout que là aussi, je m'en vais aussi dire vite aux parents qu'il ne faut pas traîner si vous constatez que ces signes persistent. Parce que plus tôt le diagnostic est posé, et plutôt le traitement pourra aussi réussir. Mais néanmoins, je vous garantis qu'il y aura un traitement qui sera donné, qu'il soit médicamenté ou non, mais le traitement sera approprié.
Sur ces docteurs, quels conseils ou astuces donnez-vous aux jeunes pour préserver leur bien-être mental?
Ok, merci beaucoup. Comme conseil, comme orientation, comme professionnel de santé, le premier conseil des données, on ne va pas les donner aux jeunes, on va plutôt les donner d'abord aux parents.
Okay.
Que le parent puisse agir en parent responsable, qu'ils accordent un environnement sain, un environnement favorable à l'épanouissement de leurs enfants. Parce que cet enfant qui grandit dans l'amour, dans un bon environnement, n'a pas à chercher de l'aide extérieure, dont la consommation de substances, dont l'agressivité, dont la résolution des problèmes par colère, par coup, par combat et tout ça. Mais aux jeunes aussi d'être responsables, c'est dire que ce sont eux qui sont responsables de ce pays. Ce sont eux qui sont l'avenir de ce pays et nous devons nous préserver de tout comportement pouvant nous mettre dans la violence. Si on a un problème, on sent en soi qu'on a un problème, un esprit suicidaire, par exemple, c'est l'un des signes qui accompagne les troubles mentaux. Il faut en parler à quelqu'un de plus proche qui peut vous aider, à votre enseignant, à votre professeur, à votre pasteur, à votre médecin, votre avocat. Comme ça, on peut vous aider pour que ensemble vous trouviez des solutions et vous aider à bien grandir, en prenant la vie au sérieux.
Voilà, docteur Placide Kayombo, médecin et coordonnateur, je rappelle d'ailleurs que vous êtes médecin et coordonnateur de l'association pour le bien-être familial et naissance désirable. Merci de répondre à toutes nos questions.
Merci cher Dieff, merci à tout le monde, merci à l'équipe de la Radio Capi et merci à nos fidèles auditeurs.
C'était donc le docteur Placide Kayombo qui s'entretenait avec Dieff Opila.
Radio Capi, le souffle du Congo.
Le magazine Bana Okapi se poursuit sur Radio Okapi et nous recevons le psychologue clinicien héritier Mwongia du centre hospitalier neuropsychiatrique Sainte-Croix de Béni. Dans cet entretien avec Révis Salomon, il aborde la question autour du trouble mental, ses causes, ses conséquences ainsi que le mode de prévention. Suivez.
Monsieur Héritier Mwongia, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous êtes un psychologue clinicien au centre hospitalier neuropsychiatrique Sainte-Croix de Béni, attaque expert. Comment définissez-vous les troubles mentaux?
les troubles mentaux, ou bien disons les troubles mentaux, c'est la présence de quelque chose qui perturbe la personne sur les trois aspects, dont les physiques, donc le corps, l'organisme, les psychologiques et les sociales. C'est que en présence de quelque chose, des facteurs qui perturbent la personne, là, on va parler directement des troubles ou bien de la maladie.
Alors, y a-t-il une différence entre trouble mental et trouble de comportement?
Oui, il y a une très grande différence. Quand on parle du mental, là, on voit directement les fonctions psychiques, là où on peut parler du raisonnement, on peut parler de la mémoire, on peut parler de la cognition. Il y a vraiment beaucoup de facettes sur ce qu'on appelle le mental. Il y a maintenant ce qu'on appelle le comportement. On peut être affecté mentalement, mais tout en gardant tout ce qui est normal par rapport au comportement. C'est comme quelqu'un qui fait des oublis. Et ces oublis-là qui deviennent exagérés, on peut l'oublier même et apprendre son bain. Mais le comportement, c'est par rapport à ce qui est hors l'ordinaire. Le comportement, donc, dépend du milieu ou d'un autre. C'est comme dans les milieux où les femmes portent des vêtements d'une manière ou d'une autre, et quand un homme porte à la manière des femmes, là on voit directement le comportement qui est perturbé. Contrairement à ce que nous appelons le mental, là il peut y avoir quelque chose qui ne va pas, mais qui n'affecte pas directement les comportements jusqu'au niveau de parler de la déviation. C'est qu'il y a une nette différence entre ces deux éléments, les troubles du comportement et les troubles mentaux.
Quels sont les troubles mentaux qui atteignent plus les jeunes?
Il y en a beaucoup, comme dans la classification des maladies telles qu'il est connu par tout le monde, comme on peut parler de paludisme, on peut parler de typhoïde, on peut parler de je ne sais casser et quoi. Il en est de même pour ce qui est du psychologique, ce qui est du mental. Il y a beaucoup de maladies. Et la plupart des malades mentaux, ici dans notre milieu, surtout les jeunes, sont atteints par la maladie que nous appelons la psychose. C'est une maladie caractérisée par une altération complète de l'être. La personne manifeste un changement vraiment radical sur son comportement, sur sa personnalité. Et c'est ça la grande maladie qui est en train de fragiliser beaucoup de jeunes.
Est-il possible d'en guérir complètement?
Oui, il est possible, mais il est rare. Il est possible de guérir complètement, mais il est rare. C'est que une fois on vient de piquer la maladie, pour la première fois, nous stabilisons la personne et nous le suivons, et qui prend du temps. Alors, ils sont rares ceux qui se stabilisent complètement, mais une fois on a piqué la maladie, la plupart des cas, on devient fragile qu'avant de piquer la première crise. C'est que c'est possible, mais ce n'est pas impossible, disons, mais c'est difficile.
Et peut-on dire que les jeunes délinquants qui sèment la terreur dans le quartier sont tous atteints des troubles mentaux?
Il y a certains critères qui nous aident à déterminer de la normalité ou bien de l'anormalité de l'être humain. Et si je peux m'inspirer du critère par rapport aux normes sociales, une fois on agit hors les normes sociales, c'est déjà un trouble. Ah, c'est que par rapport aux normes d'ordre social, c'est que tout le monde dans une société quelconque connaît que dans notre société nous devons nous comporter ainsi. Et quand la personne déjà a une manie, a une habitude de se comporter en dehors, dévier des normes sociales, c'est déjà une maladie qui peut être soignée d'une manière ou d'une autre.
Alors comment leur venir en aide?
Il y a beaucoup de manières de leur venir en aide. Nous avons ce que nous appelons la prise en charge holistique. La prise en charge qui tient compte de la forme biopsychosociale. La prise en charge qui va viser le corps, qui va viser l'esprit, pas l'esprit dans le sens spirituel. Mais il y a aussi la facette sociale. Le social y compris aussi les spirituels. C'est que pour les prendre en charge, On va mettre l'accent sur l'aspect qui a été plus détérioré, mais sans rejeter les autres facettes. C'est que ceux qui se comportent de manière non digne, de façon à nuire sur les normes sociales, ils sont aussi pris à charge, la prise à charge psychosociale.
Nous sommes à l'est de la RDC où nous vivons plusieurs affres de la guerre. Pouvons-nous dire que c'est parmi des facteurs qui affectent la jeunesse?
Exactement. Quand on devient malade, la plupart des cas ou bien la plupart des fois, on est malade puisqu'il y a eu beaucoup de facteurs. Et de ces facteurs-là, on peut distinguer les facteurs qui sont lointains, ce que nous pouvons appeler les facteurs prédisposants. Par exemple, la manière dont la personne a été née. Nous pouvons voir même son vécu de l'enfance avec des blessures d'enfance qui peuvent être probables. Là, on peut classer ces exemples que je viens de citer dans les facteurs prédisposants, c'est-à-dire il y a des causes qui sont lointaines. Et il y a aussi maintenant des causes que nous pouvons qualifier de facteurs déclencheurs. La personne se comporte de telle ou de telle autre manière inadaptée, puisqu'il y a quelque chose qui a réveillé cette manière de faire, cette manière d'agir. Là, on parle de facteurs déclencheurs. Et avec probabilité d'être maintenu dans cet état, ce que nous appelons les facteurs de maintien. Voilà, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à la base. La personne qui est en train de prendre abusivement de l'alcool, vous pouvez dire qu'il prend abusivement de l'alcool puisque peut-être il a envie de cet alcool. Mais qu'est-ce qui est caché derrière cet alcool? Peut-être il y a quelque chose qui lui était arrivé même avant qui a concouru à ce comportement qui se présente à ce moment.
Et en termes de prise à charge, quels sont les signes qui doivent pousser quelqu'un à consulter un psychiatre?
Au départ, nous avons parlé de la présence de quelque chose qui nuit à la liberté ou bien au bien-être de la personne. Il peut s'agir d'une pensée quelconque, quand la personne pense que, par exemple, tout le monde est contre lui. C'est quelque chose qui nuit sur sa pensée, sur son psychisme, bien sûr. Et une fois vous avez ce quelque chose, que ça soit une idée, simple idée, ou bien que ça soit quelque chose d'organique, on est conseillé d'aller directement vers les prestataires de soins pour être aidé et ne pas demeurer avec cette chose qui nuit à votre bien-être. C'est que il y a beaucoup de signes tels que la dissociation avec la réalité, quelqu'un qui peut voir ce que tous les autres ne voient pas, ce que nous appelons hallucination visuelle. Il y a aussi des hallucinations auditives, il y a aussi des hallucinations de beaucoup de formes par rapport aux cinq organes de sens. Une fois vous hallucinez, une fois vous sentez ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas vraiment confirmé par l'entourage, c'est nécessaire d'aller plus vite et de ne pas attendre même 2 jours. Et à part cela, il y a d'autres qui peuvent développer des maladies telles que la dépression, qui est caractérisée par le dégoût de la vie. La personne n'a plus envie de continuer à vivre. Il peut faire des idées ou bien même des actes suicidaires, des tentatives de suicide, disons. Et quand il y a tout cela, il faut vraiment vous hâter à l'hôpital pour vous faire soigner par les psychiatres et par les psychologues. Il y a vraiment une grande liste que nous ne saurons pas détailler, sinon je suis en train d'épingler ceux qui sont principaux qui puissent motiver votre consultation à la hâte.
Et pour terminer, quels sont les conseils et astuces pour promouvoir le bien-être mental des jeunes?
D'abord, en premier lieu, c'est que les jeunes doivent avoir la manie de se former de ce qui se passe. Lire beaucoup et écouter des émissions éducatives pour connaître et pour se connaître, bien sûr. À part cela, les jeunes doivent s'abstenir à tout produit psychoactif, c'est-à-dire tous les produits qui vous puissiez prendre et agir directement sur vos fonctions psychiques. Je peux citer l'alcool, je peux citer tous les stimulants. À part les stimulants, je peux citer les tabacs sous toutes ses formes, que ce soit l'opium, que ce soit les autres les appels d'autres produits comme des chichas et j'en pense. Donc tout produit qui puisse porter atteinte à votre fonction psychique, vous abstenir.
Hérité Mwonga, nous rappelons que vous êtes psychologue clinicien au centre hospitalier neuropsychiatrique Sainte-Croix de Béni. Nous vous remercions.
Nous vous remercions aussi.
Ainsi prend fin ce magazine Bano Okapi de ce jour. Ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF a fait un focus sur la promotion du bien-être mental des jeunes Congolais. Pour rappel, à l'échelle mondiale, un jeune âgé de 10 à 19 ans sur 7 souffre d'un trouble mental tel que la dépression, l'anxiété et les troubles du comportement, ce qui emmène au suicide souvent observé chez les 15 à 29 ans. Dans ce magazine, nos invités ont parlé de causes, des conséquences et ont donné quelques stratégies à adopter pour améliorer la santé mentale des jeunes Congolais. Ce magazine a été produit par Grâce Envoisolo, Rachel Kessé, Ezekiel Mouzalia, André Kitenge, Jeff Opela, Grévis Salomou, Guylaine Kassassia et Stanislas Diomi. Vous pouvez le réécouter sur les sites de Radio Okapi, www.radiokapi.net ou sur la page Facebook Bana Okapi. Au revoir et à la prochaine.